Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du Cédil. On était censé l'accueillir à Fribourg 2 ans plus tôt pour parler de son livre paru en 2019, CECRR par ici la sortie, un livre qu'il a écrit avec Christian Puren. Mais Covid oblige, on a repoussé sa conférence à l'Institut de plurilinguisme à 2 reprises, mais aujourd'hui il est là, en chair et en os, dans notre studio, c'est Bruno Maurer. Bruno, bonjour.
Bonjour Philippe.
J'ai le plaisir de te recevoir sans masque aujourd'hui. Tu es professeur à l'École de français et langue étrangère de l'Université de Lausanne depuis 2019. C'était aussi à cette occasion qu'on t'invitait à Fribourg. Auparavant, et bien sûr, je crois que tu es encore affilié à l'Université de Montpellier 3.
Pour le laboratoire de recherche, oui.
Oui, pour Dipralang, hein, c'est juste. Tu as été longtemps actif sur le continent africain, en particulier au Mali et à Madagascar, où tu as passé plusieurs années, notamment comme directeur du bureau de l'océan Indien de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Tu diriges encore aujourd'hui la revue TDFLE, Travaux de didactique du français langue étrangère. Tes recherches portent sur, entre autres, hein, je vais faire court, les représentations des langues, les politiques linguistiques éducatives et les méthodes d'enseignement des langues étrangères. On va dire que tu as un intérêt marqué pour les enjeux à la fois pratiques, des pratiques d'enseignement, pardon, tout comme les politiques qui conditionnent ces pratiques. Aujourd'hui, on va parler, entre autres, hein, de l'évaluation, puisque c'était un peu le thème aussi de ta conférence à Fribourg. L'évaluation, c'est vraiment un thème qui a fait couler beaucoup d'encre en didactique des langues étrangères, mais plus généralement en sciences de l'éducation, qui fait toujours couler de l'encre, même dans les médias, dans la société. Et puis, je voulais savoir, à partir de quand tu as commencé à t'intéresser aux questions d'évaluation dans le domaine des langues étrangères ?
Alors en fait, cette question, et puis merci Philippe de nous recevoir ici à l'Institut de plurilinguisme, cette question en fait, elle est assez récente, on va dire, si on veut la prendre d'un point de vue précis. Du point de vue des objets d'évaluation, des démarches d'évaluation, des techniques d'évaluation, je m'y intéresse réellement sur un terrain de recherche depuis que je suis en fait en Suisse. Et on y reviendra tout à l'heure. Mais auparavant, j'ai été amené à m'interroger sur les démarches de l'évaluation, non pas moi en tant qu'expert sur le terrain, mais à partir des différents terrains sur lesquels j'ai travaillé, notamment au départ en Afrique. Mais je suis venu à l'évaluation après coup, c'est-à-dire en m'intéressant d'abord à ce qu'étaient les actes d'enseignement et de formation dans les écoles. Et c'est seulement depuis que je suis arrivé en Suisse que, avec une commande qui a été passée par le canton de Vaud, qui nous a demandé à Anne-Christelle Zeiter de l'Université de Lausanne et de l'EFLE comme moi, et à moi-même de travailler avec des prestataires en langue du canton pour essayer de créer une culture commune de l'évaluation au niveau du canton, que pour le coup, j'ai pu convertir dans un regard pratique, critique et propositionnel les analyses que j'avais faites au départ sur un instrument qui est utilisé à des fins d'évaluation et qui est le cadre européen commun de référence pour les langues. Et donc ce cadre européen commun de référence pour les langues, en fait, ça fait depuis, on va dire, 2010 que je m'y intéresse de manière précise, mais pas vraiment sous l'angle au départ de l'évaluation, d'abord sous l'angle de à quoi sert-il le CECR pour mieux enseigner les langues et que nous apprend-il d'intéressant sur comment on apprend les langues. Et donc moi, dans ce cadre européen commun de référence qui comprend 3 parties, hein, enseigner, apprendre, évaluer, je me suis d'abord intéressé à tout ce qui pouvait avoir un impact sur les gestes enseignants et aussi un impact sur les outils si importants pour les enseignants que sont les manuels scolaires. Et aujourd'hui, il n'y a pas un manuel scolaire qui ne sort sur le marché sans qu'ils doivent marquer qu'il est conforme aux exigences du CECR. Donc, on va dire que pendant de 2010 à 2019, je me suis intéressé au CECR dans ses dimensions apprendre et enseigner. Et c'est depuis 2019 et mon arrivée en Suisse que véritablement je travaille au 3e volet qui va être la question de l'évaluation.
Donc c'est intéressant hein, parce que finalement c'est vraiment aussi le CECR qui t'a amené. Tu avais déjà un bagage de tes séjours en Afrique. C'est vraiment le CECR qui a été un événement déclencheur pour prendre une position réflexive sur ce que c'est l'évaluation, etc. Et on le voit, hein, on va en discuter plus tard, mais le CECR est quand même quelque chose d'assez hégémonique en Europe aujourd'hui. Mm-hmm. Même on va dire, c'est contesté par peu de monde, j'ai envie de dire, dans les milieux de la didactique, même dans les milieux professionnels, c'est impressionnant. Hein, il n'y a pas un CV sans qu'on voit A1 dans telle langue, B2, B1, etc. Parfois, sans qu'on sache vraiment de quoi il s'agit. Mais sur le plan didactique, finalement, le CECR, qu'est-ce que tu lui reproches? Qu'est-ce qu'il a de si terrible?
Alors, effectivement, je fais partie des quelques chercheurs qui ont développé, avec d'autres, une pensée critique à l'égard du CECR. Alors moi, on va rester au plan didactique. Hein. Je considère que le CECR, c'est un objet mal identifié et peu et difficilement exploitable. En fait, hein. En fait, je connais très peu d'enseignants qui ont réussi à le lire. Et beaucoup, n'ayant pas réussi à le lire, ont la mauvaise conscience de ne pas y être arrivés. Et ça, c'est un sentiment qui est pour moi quelque chose de difficile à entendre ou à vivre. Et quand je travaille en formation avec des gens, des professeurs, du primaire, du secondaire, dans tous les pays où je passe, en fait, ils ont entendu parler du CECR. Et en fait, peu l'ont rencontré réellement, peu s'y sont confrontés. Et pour la plupart, il s'agit d'un objet qu'il faut absolument utiliser. Mais le CECR lui-même est un objet difficilement pénétrable, maniable, et ça tient aussi à son mode d'écriture, donc je crois.
Pourtant, les descripteurs sont quand même assez compréhensibles dans le CECR. Si je m'en tiens aux descripteurs, oui. Ils sont compréhensibles. Est-ce que ça cloche?
Les descripteurs sont compréhensibles, en effet, parce qu'on a une série de descripteurs qui sont rédigés en « je peux hein, »,« je peux », et puis on part des capacités ou des habiletés les plus basses et les plus faibles pour aller, quand on est au niveau supérieur de compétences en langue, au niveau C2 les plus élevés. Ouais. Alors, ils sont assez simples. Le problème, c'est qu'ils sont difficilement exploitables. Alors, là, je rentrerai peut-être dans la critique didactique hein, de la rédaction de ces descripteurs. En fait, ces descripteurs souffrent de plusieurs défauts, à mon avis. Le premier défaut, on va dire que le CECR a mis à disposition des utilisateurs non pas une grille de descripteurs, ça serait bien en fait. Hein. Parce qu'une grille de descripteurs, on y verrait plus clairement en fait, pour pouvoir s'en servir pour pratiquer par exemple ses évaluations ou pour guider son parcours de formation. Mais il a mis quand même en place aujourd'hui, je crois, 48 échelles de descripteurs. Voilà. Alors déjà, un des problèmes vient, je pense, de la profusion. 48 échelles de descripteurs qui parfois... décrivent des situations de communication très, très, très particulières. Par exemple, comprendre une émission radiophonique. À côté de ça, il va y avoir lire pour s'informer et discuter. Et donc, on a une profusion, en fait. Et une des difficultés vient que le pédagogue doit se dire quelle échelle de descripteur je vais pouvoir utiliser pour évaluer les personnes. Donc, quand on est dans une démarche de cours, ben on peut dire, tiens, je vais prendre l'échelle de description, par exemple, comprendre une émission de radiophonique, voilà, par exemple. Puis on se dit, je vais m'en servir pour évaluer. Et là, on tombe sur le deuxième défaut du CECR. C'est que les 10 descripteurs signalent des comportements, mais ces comportements ne sont pas rapportés à des observables. Et quand on dit, comprendre, par exemple, une émission, etc., oui, mais ça veut dire quoi, comprendre? Et en fait, là, on s'aperçoit que le deuxième défaut des descripteurs du CECR, c'est qu'ils sont très vagues, extrêmement vagues, et pas assez référés à des observables précis qui permettraient ensuite de proposer des évaluations. Le troisième défaut, c'est que la gradation d'un niveau à l'autre se fait souvent au moyen d'un adverbe qui est assez... alors, au début, c'est peu utilisé, rarement. Ensuite, c'est souvent, ensuite, c'est très souvent, ou alors c'est de manière correcte, ou etc., etc. Bon, OK. Mais cette gradation-là, à quoi est-ce qu'elle va tenir dans l'évaluation? On n'a pas de piste dans le CECR. Autre défaut aussi, les différents descripteurs, quand on les regarde, sur une même ligne, parfois, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs éléments qui sont évalués dans une même ligne. Parfois, ça va être un élément linguistique, parfois, ça va être un élément communicatif qui sont évalués. Et souvent, moi, j'ai regardé des descripteurs. Sur la même ligne, il y a 3 dimensions qui sont évaluées. Ça rend les choses très compliquées, quoi.
Après, c'est peut-être aussi ce qui rend tout ce flou, c'est que la volonté du CSR est d'être, entre guillemets, translinguistique, c'est-à-dire de pouvoir être appliqué à n'importe quelle langue. Donc forcément que ça va générer beaucoup de flou.
Oui, ça c'est la vision optimiste. Hein. La vision que je peux avoir, c'est que le CECR, justement, ne propose aucun descripteur lié aux langues elles-mêmes. Alors, ces descripteurs sont des échelles sur les activités de communication ou sur les stratégies de communication. Mais il n'y a rien, justement, sur l'axe linguistique. Alors, les stratégies de communication, bien sûr, ça va être aux gens de référer ces stratégies de communication ou ces comportements communicatifs avec des éléments linguistiques et des observables. Mais c'est un travail à faire, c'est un travail qui n'est en général pas à la portée des enseignants. Et donc, je pense qu'un des, un des, comment dire, une des difficultés du CECR, c'est qu'il donne envie de... C'est comme on vous montre un bon repas, mais on ne vous donne pas les ingrédients pour le faire, en vrai. Et en fait, les seuls qui ont les ingrédients pour le faire, ce sont les organismes certificateurs. C'est par exemple le Goethe Institute, c'est par exemple le CIEP de Paris, c'est par exemple le Cambridge Learning Assessment. Et en fait, le CECR est plutôt fait pour eux, pour organiser le marché de la certification, plutôt que pour les enseignants, pour faire une évaluation en cours d'apprentissage. Donc ça aussi, c'est un des reproches que je peux faire. Mais d'autres reproches sont faisables sur le CECR qui reposent sur des conceptions linguistiques qui sont totalement dépassés et totalement surannés, quoi. Et ça, c'est quand même une des choses que je peux le difficilement comprendre dans le CECR.
Par exemple, est-ce que tu
par exemple, enfin, regarde, le CECR est paru en 2001, ok. Bon, en 2018, il connaît une actualisation par ce qu'on appelle la parution d'un volume compagnon du CECR 2018. En 2018, on trouve quand même des choses dans le CECR, des échelles de description qui sont, par exemple, ça s'appelle comment déjà ? Ça s'appelle le monologue suivi. Et on considère que... alors, c'est très intéressant aussi parce que...
C'est très scolaire, non ?
Ouais, c'est très scolaire, mais on peut se demander dans quelle situation de la vie on est amené à faire un monologue. Ça n'existe pas. Il n'y a que les enseignants qui parlent seuls. Et j'y reviens, c'est une conception qui est fondamentalement non dialogique et non dialogale de la communication. En fait, le schéma de la communication sur lequel repose le CECR, c'est un schéma de la théorie de l'information des années 50, dans lequel, par exemple, le CECR va distinguer des activités qu'il appelle, attention, de réception. Après, des activités de production. Et après, il y a des activités qu'il appellera de médiation. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on peut, en 2020, avec tout ce qu'on sait de l'analyse conversationnelle, enfin de tout ce qui a fait la richesse en fait de la pragmatique, etc. Comment est-ce qu'on peut concevoir que la compréhension c'est une activité de réception? Non, c'est toujours quelque chose qui est dialogal et toute production de discours, aucune production de discours n'est monologale, ça n'existe pas. Même quand je parle tout seul, enfin, en tant que prof, je m'adresse toujours à des élèves. Et même s'ils ne me parlent pas, mon discours n'est pas un discours monologal. Et donc, on va trouver dans le CECR tout un tas de grilles, enfin, de descripteurs, qui sont liés à une activité qu'ils appellent réception. Mais la réception, ça n'existe pas. C'est toujours une interaction. Et donc, fondamentalement, le CECR repose sur des conceptions totalement dépassées. Pourquoi il fait ça ? Parce que ça lui permet de distinguer d'un côté des choses qui ne seraient que de la réception pure, qui n'existe pas, que de la production pure monologale, qui n'existe pas, et en ayant restreint ces deux domaines à des éléments purement monologaux, ça lui permet de dégager une troisième série de comportements qu'il appellera de la médiation, dans lequel là, il y aura de l'interaction. Mais fondamentalement, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ça veut dire que les gens qui ont fait le CECR aurait quand même dû intégrer tout ce qu'on sait de l'interactionnisme depuis quand même 60 ans.
Donc, c'est intéressant parce que cette histoire du CECR, de comment finalement, là, ce que tu présentes, la relation dialogique qui n'est pas prise en compte dans l'évaluation, c'est intéressant parce que ça donne l'impression que c'est vraiment pensé pour faire du testing à l'anglo-saxonne, le testing, qui est une chose qui a été vraiment développée depuis, sauf erreur, les années 60, 70, dans les pays anglo-saxons. En tout cas, c'était très en vogue. Hein. Est-ce que tu penses que c'est peut-être aussi une question de personne? C'est le fait que le CSR soit si qu'il quadrille en fait ses compétences de manière un petit peu old school, pour prendre un terme anglo-saxon.
Ouais, je pense en effet que tu mets le doigt sur un aspect qui est très très intéressant, hein. C'est que quand on regarde qui a rédigé le CECR, on s'aperçoit que les gens qui ont rédigé le CECR ce sont essentiellement des institutions qui sont spécialisées dans la certification des langues. Donc, par exemple, la Fondation Eurocentre et puis le Cambridge Learning English Assessment, qui est une des filiales privées de l'Université de Cambridge. Et c'est elle qui fait tous les tests d'anglais dans le monde, hein, les plus célèbres. C'est elle qui les met en place. Et en fait, quand on regarde l'équipe rédactionnelle du CECR, première version 2001, où il n'y a pas que ces gens-là, mais qui sont vraiment au premier poste, hein, et quand on regarde le volume compagnon, c'est encore plus fortement marqué, hein, et l'équipe rédactionnelle est très, très, très réduite. Après, elle s'entoure d'experts qui sont tous des gens qui viennent aussi de ce milieu-là, de la certification. Et donc, on comprend là peut-être qu'une des véritables fonctions du CECR, ça n'est pas tant d'aider les gens à mieux enseigner les langues, parce que le CECR ne dira rien sur comment enseigner les langues, strictement rien, il refuse même de prendre parti, ni on comprendra pas vraiment comment les gens apprennent les langues, et là, il y a d'autres parties, si ça t'intéresse, on pourra y revenir, parce qu'il n'y a strictement rien sur comment on apprend, et on s'aperçoit que finalement, le cœur de la cible, c'est effectivement la mise en place d'un, ce qu'on appelle un marché de la certification des langues. Et c'est en ça d'ailleurs que le CECR a très très bien réussi. Et quand on y réfléchit, qu'est-ce qu'on garde du CECR? Ben, rien sur quoi enseigner parce qu'on ne sait pas trop faire. Hein. Le CECR ne nous dit rien. Rien sur comment on apprend, mais surtout, quel niveau on a. Et ce qu'on garde du CECR, tu l'as dit toi-même, c'est des échelles de chiffres et de lettres, A1, A2, B1, B2, qui sont pour moi, des références vides de sens, parce que ça dépend tout de comment on a évalué les gens, sur quelles épreuves on les a évalués, avec quel rapport avec leur vie quotidienne, dans quelles circonstances ils ont été évalués. Et ça, on ne l'a jamais. On a un niveau global du CECR et c'est très insatisfaisant. Mais pourquoi donc, effectivement, les organismes de certification ont procédé comme ça, si tu veux, en séparant artificiellement, encore une fois, réception, production, médiation, en fait, ils n'évaluent pas la médiation. Hein. Dans aucun des tests, on n'évalue que la réception ou la production parce que c'est le plus facile à évaluer en termes de testing. Quand tu as quelque chose qui est monologal, ah ben c'est facile, on peut facilement mettre des croix, faire des questionnaires à choix multiples et ça passe très très bien dans des machines qui vont ensuite évaluer. Si on veut évaluer de l'interaction, ah ben c'est beaucoup plus complexe. Hein. Et donc, il était sans doute rentable pour les organismes de certification d'opérer cette tripartition, à mon avis, totalement artificielle. Et on voit aussi d'ailleurs que les évaluations du CECR, enfin inspirées par le CECR, puisque lui n'évalue rien, hein, il donne des descripteurs, et après c'est aux organismes de produire leurs tests, les tests qui sont inspirés du CECR évaluent toujours des compétences dans une seule langue, de manière séparée. Et c'est quand même un grand écart avec la philosophie du CECR qui a promu le plurilinguisme. Et ce n'est pas à l'Institut du plurilinguisme que je vais dire ça. Mais d'un côté, on promeut le plurilinguisme comme vraiment l'horizon à atteindre. Et puis, bon, on dit aux théoriciens, allez-y, dites-nous comment on va enseigner le plurilinguisme. Mais dans les pratiques d'évaluation, on évalue les langues toujours de manière séparée et on n'évalue jamais les compétences plurilingues, mais seulement les compétences dans une seule langue. Donc là, on voit bien en fait qu'il y a un écart entre le discours du CECR, généreux, ouvert, non prescriptif pour le plurilinguisme, et puis les pratiques qui en sont sorties du point de vue de l'évaluation, certification.
Et c'est intéressant aussi quelque chose pour rebondir aussi sur quelque chose que j'ai lu dans votre livre de Christian Puren et toi, Bruno Morer, c'est le manque en fait d'implication du processus d'apprentissage dans l'évaluation en fait. C'est-à-dire que l'évaluation sauce CECR est pensée pour des finalités, ce qui rejoint en fait l'idée de testing qui est de tester dans le but de simplement avoir un produit sur lequel on met une note, qu'on quantifie, qu'on peut Après, pour produire une valeur qui est comprise, je pense que c'est aussi dans le projet européen, hein, ça tu le dis aussi dans un de tes livres, sur le fait que on peut se dire dans toute l'Europe, ben voilà, cette personne, elle est compétente, elle est attestée comme compétente dans telle langue, mais on s'intéresse pas, finalement, ce n'est pas, j'ai pas l'impression, alors après, que c'est un but en soi du CECR que de vouloir intégrer le processus d'apprentissage. C'est ça qui est assez fou, c'est vraiment, c'est purement évaluatif au sens de testing, pas vraiment évaluatif au sens accompagner les apprenants, accompagner les enseignants aussi pour leur dire, ben voilà comment on fait peut-être un diagnostic pour savoir où se trouve la personne, à quel niveau, quelles sont ses prochaines étapes, etc. Ça, finalement, on délègue tout ce boulot, si j'ose dire, à des écoles de langue, à des maisons d'édition, au passage, hein, c'est quand même un gros marché, hein. C'est le CSR pour elles. Est-ce que, là, je ne sais pas, il me semble que tu parles, enfin vous parlez avec Christian Perrin d'évaluation intégrée, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu verrais aussi comme peut-être comme piste pour, bah, pourquoi pas essayer de proposer une alternative?
Oui, bah dans le livre qu'on a publié avec Christian Puren qui s'appelle CECR par ici la sortie, bon, notre but n'est pas réellement de sortir du CECR parce que pour en sortir, il faudrait qu'il y ait un réel consensus international sur ces questions, mais comme les gens souvent ne veulent pas se donner forcément les moyens d'une réflexion de fond, bon, on se dit qu'il va falloir s'accommoder du CECR, mais pour s'en accommoder, on peut s'en accommoder en gardant. On va dire peut-être le vocabulaire minimum du CECR. Bon, des niveaux. Avant on disait débutant, avancé, confirmé. Bon, aujourd'hui on dit ABC. En réalité, il n'y a pas grand-chose qui a changé, hein. Simplement, ça permet d'avoir des lettres et des chiffres communs. Mais en réalité, derrière, on retrouve exactement les mêmes classements que niveau seuil. Et puis, c'est l'héritier direct du niveau seuil, bien entendu. C'est les mêmes personnes, d'ailleurs, les mêmes institutions qui sont derrière. Mais enfin, en 2001, il faut relancer le marché et puis il faut peut-être mieux le structurer que ce qu'on a fait dans les années 70. Bon. Et Christian Puren, notamment dans le livre, c'est la partie qu'il a plus faite que moi, hein, sur le quatrième chapitre, où il travaille effectivement sur une autre logique de l'évaluation, hein, qui serait une évaluation qui prend en compte effectivement les processus d'apprentissage et qui n'est pas simplement une évaluation sommative. Hein. Et moi, je renvoie les lecteurs, parce qu'ici, c'est un peu long à le faire, hein, à quelques exemples qu'il a pu mettre en place, notamment en Algérie, dans des curriculums algériens qui sont faits sur des approches par les compétences par ailleurs, et où il montre qu'on peut avoir des démarches d'évaluation qui sont plus des évaluations formatives, formatrices, en cours d'apprentissage, et qui vont réellement donner des indications sur les trajets des apprenants en cours, hein. Et donc, quand tu disais tout à l'heure, oui, il y a plusieurs formes d'évaluation, effectivement, et très souvent, ou trop souvent, on confond évaluation avec notation, évaluation avec produit final. Et comme tu l'as dit, il y a toute une série de moments d'évaluation et de fonctions de l'évaluation qui doivent être prises en compte. Alors, le CECR, bon, il s'en tire parce que dans son chapitre 9 consacré à l'évaluation, en 7 pages, il fait en 7 pages le balisage de tous les types d'évaluation qui existent. Alors, certains types d'évaluation, il y a deux paragraphes, un paragraphe. Mais il ne peut pas dire qu'il ne l'a pas fait. Il a fait le job, le CECR. Hein? Mais c'est en 7 pages, pour moi, c'est une vaste blague, quoi, hein? On dit aux gens, voyez, l'évaluation, ça sert à ci, ça sert à ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais après, ce qui va les intéresser, eux, c'est la certification. Donc là, on est dans quelque chose qui est vraiment un produit d'appel, quoi. Et puis, on fait semblant de traiter du sujet, puis en fait, on n'en traite pas. Et les seuls qui peuvent en traiter, ce sont les organismes certificateurs, dont c'est vraiment le job. Et eux, si tu veux, ils ont un secret industriel derrière. C'est-à-dire que pour passer des descripteurs du CECR qui sont hyper larges, 48 échelles, des descripteurs des échelles qui ne sont pas reliées entre elles, des descripteurs qui sont flous et qui mêlent plusieurs items à l'intérieur, plusieurs éléments, pour passer de ça à des activités d'évaluation, ben, il faut construire des items d'évaluation ou il faut construire des épreuves d'évaluation. Et ça, pour ça, c'est un véritable savoir-faire, hein. Le prof dans sa classe, s'il doit passer ce temps-là, il ne sait pas le faire. Donc, c'est très embêtant. Les institutions, les associations avec lesquelles on travaille dans le canton de Vaud, ils ne savent pas faire non plus. Donc, il y a des vagues tests qui circulent et puis l'évaluation n'est pas faite de manière pour nous suffisamment professionnel pour garantir un minimum d'éthique dans le geste d'évaluation. Or, ce geste d'évaluation, quand il est certificatif, il a un impact direct sur la vie des gens. Et en Suisse, par exemple, et dans d'autres pays, il va être un accès à un permis, à un type de permis, hein, un permis d'établissement, un permis de séjour, travail, pas travail, un permis C ou d'autres types de permis. Hein. Et donc, ça, pour nous, il y a une vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on évalue les gens souvent avec des modalités qui ne sont pas suffisamment explicites, hein, et avec des modes de testing qui ne sont pas suffisamment proches, si tu veux, par exemple, de la vie réelle des gens, de leurs réelles aptitudes communicatives, des sphères dans lesquelles ils sont capables d'utiliser les langues, etc.
Est-ce que ce n'est pas le problème de toute évaluation, ça, finalement, de tout testing, finalement?
Alors,
est-ce qu'on peut vraiment créer quelque chose de réaliste?
Dans ta phrase, tu as tout à fait... utilisé comme synonyme évaluation et testing.
Oui, effectivement.
Et pour nous, évaluation, ce n'est pas
testing.
C'est
autre chose, oui, tout à fait.
Le testing, dans le sens où on va proposer des batteries d'activités, hein, dans lesquelles la personne va cocher des cases, relier des trucs, compléter, ça, c'est un mode d'évaluation. Mais on peut avoir des modes d'évaluation plus interactifs, plus basés sur la personnalité de la personne qui se fait évaluer, et plus... Donc, plus éthique, en réalité. Hein.
Alors,
ça signifie qu'il ne faut pas résoudre trop rapidement la dimension évaluation sur la dimension test. Mmh, et ça, bien sûr, toutes les pratiques qui sont internationalement reconnues, c'est plutôt du test. Mmh. Le DELF, par exemple, en France, ou le DALF, qui sont le diplôme élémentaire de langue française, le diplôme approfondi de langue française. Tout ce qu'on peut faire autour, par exemple, de la plupart des certifications qui sont validées par FIDE, c'est plutôt effectivement des choses du type testing. Et on essaie de se rapprocher au maximum de l'idéal où il y a une machine qui va pouvoir corriger. Mais toute la partie, bien entendu, interactionniste, elle n'est pas prise en compte. Donc, quelle est la capacité, par exemple, d'une personne qu'on évalue à co-gérer une interaction avec quelqu'un? Quel est son degré d'autonomie en français quand elle parle avec quelqu'un? Et puis, dans quel domaine cette personne est-elle la plus à l'aise?
Et on pourrait aussi se demander, est-ce que c'est une question de langue ou une question de compétence sociale, hein, parfois,
mais
pour ce
sûr.
Genre de choses?
Mais
parce
bien
que y a plein de... Tu parlais de personnes issues de l'immigration qui ne savent pas forcément comment gérer un entretien bureaucratique à l'administration de la ville, qui ne savent pas ce que c'est une commune, peut-être.
Mais,
enfin,
oui. Mais bien sûr, et par exemple, évaluer une langue... dans l'absolu, quand on est linguiste et sociolinguiste, que je suis aussi par ailleurs, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'il faudrait faire, c'est évaluer dans quelle situation sociale une personne est capable d'utiliser la langue et pour faire quoi. Ça serait évaluer ce qu'on appellerait des agirs sociaux, sociolangagiers. Et là, tout d'un coup, on pourrait dire aux gens, ben voyez, on a évalué votre niveau de langue dans les termes du CECR, on va dire. Et donc, par exemple, en compréhension orale, vous êtes plutôt A2, par exemple. En production, vous êtes plutôt ceci, cela. Ça vous donne plutôt un niveau général CECR qui est entre A2 et B1, par exemple. Bon, voilà. Mais en même temps, il faudrait livrer une photographie plus complexe que ça de la personne, avec un descriptif qui serait, oui, ben... Cette personne qui a été évaluée, par exemple, A2 globalement, quels sont les domaines sociaux langagiers dans lesquels elle peut effectivement, avec un certain degré d'habileté, déployer ce niveau-là? Et comme tu le dis, ben, on n'est pas compétent dans l'absolu dans une langue, hein, on l'est de manière relative dans des sphères de la communication, dans des situations de communication, et ceci crée pas mal de malentendus quand, par exemple, quelqu'un dans son CV dit « moi, je suis A2 dans telle langue », et puis on lui dit, on va tester ça. Et puis on le teste dans une situation à laquelle il n'est pas du tout adapté. Et là, on voit bien le gouffre et l'abîme d'incompréhension qu'il peut y avoir et à quel point les signifiants A1, A2, B1, B2 sont vides. Et ils le sont d'autant plus que les descripteurs sont multiples et flous. Et donc, de quoi parle-t-on quand on dit de quelqu'un qu'il est A2? On n'en sait rien et personne n'en sait rien. Mais on fait semblant. Et ça permet à la machine de continuer à fonctionner. On va dire que ce sont des symboles qu'on s'échange et qui permettent de fonctionner dans ce qu'on appelle le malentendu. C'est comme ça qu'on fonctionne souvent dans la société, ceci dit. Bon, voilà.
Est-ce que tu verrais quand même un moyen, alors sur la base des descripteurs du CSR, puisqu'ils sont là, et comme tu l'as dit, hein, il faudra un consensus international, de développer une forme de subversion pour aider les enseignants finalement et les apprenants à s'y faire et à trouver une évaluation, justement, à cheminer l'évaluation sur une trajectoire d'apprentissage et pas seulement en termes de finalité. Voilà, ton objectif, c'est le test. Peut-être, si effectivement l'objectif pour certaines personnes, c'est de réussir un test. Hein.
Oui, bien sûr. Ça peut
Mais il y a des manières de les préparer. Est-ce que là, l'évaluation intégrée, ou j'ai même envie de dire, de t'amener sur un autre concept, la méthodologie plurilingue intégrée, est-ce que c'est des chemins vers, justement, qui peuvent s'accommoder du CECR?
En fait, ce qu'on va dire, c'est que, pour en rester sur la première question, juste pour l'évaluation, la méthodologie plurilingue intégrée, on y viendra peut-être plus tard, si on a le temps. Pour l'évaluation, en fait, c'est le travail et la réflexion qu'on est en train de construire avec Anne-Christelle Zeiter dans le canton de Vaud, effectivement. L'idée, c'est de travailler à l'intérieur de ces cadres généraux communément admis A1, A2, B1, B2. Mais nous, de construire avec des associations qui sont des prestataires de langue dans le canton de Vaud, de construire des grilles de descripteurs inspirées de la philosophie du CECR, voilà, mais qui va les subvertir, entre guillemets, en se livrant simplement au travail auquel nous invite le CECR, c'est-à-dire à le compléter. Et ça, c'est quelque chose qui est demandé explicitement. Le compléter, le préciser, et puis substituer à 48 grilles, par exemple, une grille qui serait une grille plus complète mais unique, dans laquelle les descripteurs seraient interreliés, et qui serait une grille qui serait adaptable selon les parcours de formation. C'est-à-dire que si tu es une association qui ne travaille que sur l'oral, ça existe, on pourrait se servir simplement du volet oral de cette grille pour évaluer, dans un sens qui ne sera pas certificatif pour le coup, hein, mais pour évaluer à des fins d'enclassement dans un cours, à des fins de suivi des progrès de la personne, son parcours. Et donc, effectivement, il y a la place pour un travail un peu exigeant qui va à l'intérieur de la philosophie générale du CECR, on va dire, hein, penser en termes de descripteur, rendre les choses plus précises et plus maniables pour des gens qui vont être amenés à évaluer leurs apprenants, quoi. Voilà.
Et là, c'est en fait, on a parlé un peu de, enfin, on n'a pas encore parlé de la méthodologie plurilingue intégrée. C'est vraiment intéressant parce que quand j'ai lu en fait un petit peu ce concept, je me suis demandé, voilà, comment vous, je trouve intéressant comment vous essayez aussi de vous démarquer de la didactique du plurilinguisme qui est un concept qui reste quand même relativement flou. En tout cas, ça fait 2-3 ans qu'on essaye avec le CEDIL de le comprendre et je me rends compte qu'on a pas mal de difficultés. Il y a beaucoup de suggestions, de propositions, mais voilà. Donc, qu'est-ce qui vous distingue finalement?
Alors, j'ai écrit un article il y a quelques années sur les impasses de la didactique du plurilinguisme. Bon, j'avais déjà écrit un ouvrage qui s'appelait le plurilinguisme, nouvelle idéologie dominante, ce qui m'a valu d'être catalogué comme fervent partisan du monolinguisme, quelqu'un farouchement contre le plurilinguisme, avec des attaques quasiment ad personam. J'avais franchi la ligne rouge qu'on ne doit pas franchir. Or, je pense que dans aucune science, on ne peut avoir de tabou idéologique. Et pour moi, il est clairement apparu qu'à partir des années 2000, le plurilinguisme devenait la nouvelle idéologie dominante. Il fallait être plurilingue. Et le monolinguisme, c'était mal. Bon, ok, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais what? Et ensuite, a émergé du cadre européen, hein, qui parlait d'éducation plurilingue et interculturelle au départ, a émergé ce syntagme bizarre pour moi de didactique du plurilinguisme, quoi, hein. Bizarre parce que ça signifierait qu'on peut enseigner le plurilinguisme. Didactique du français, je vois ce que c'est, on peut enseigner le français. Hein. Didactique de l'anglais, je vois ce que c'est. Didactique de l'histoire et des maths, je vois ce que c'est. Mais didactique du plurilinguisme, j'ai du mal à voir parce que le plurilinguisme est pour moi pas un objet enseignable au départ. Alors, s'il est enseignable, le plurilinguisme, alors c'est peut-être autour de savoir-faire et de savoir-être, hein, plus que sur des savoirs. Et donc, il faut se demander, en fait, ce qu'on va pouvoir enseigner dans une didactique du plurilinguisme. Donc, moi, je préférerais parler plutôt d'une didactique plurilingue des langues, plutôt qu'une didactique du plurilinguisme. C'est-à-dire, pas faire de plurilinguisme l'objet, mais faire de la dimension plurilingue une des dimensions adjectivales de la didactique. Donc, passer par une didactique plurilingue des langues, voir lesquelles. c'est-à-dire enseigner les langues les unes avec les autres, les unes par rapport aux autres, les unes tenant compte des autres. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai développé d'abord sur le continent africain quelque chose que je n'appelais pas encore la méthodologie plurilingue intégrée, mais j'appelais ça la didactique intégrée des langues.
Qui est aussi un terme qui revient, hein,
oui, bien sûr.
Qui est souvent alors, confondu avec didactique du plurilinguisme.
Alors, ce terme, il est intéressant, didactique intégrée des langues. Didactique intégrée, il est normalement, dans la sphère du CECR, il est l'une des quatre composantes de ce qu'on appelle didactique du plurilinguisme. L'une des quatre, avec éveil aux langues, avec approche interculturelle, etc. Voilà. Mais c'est celle qui a été la moins développée. On a beaucoup travaillé sur l'intercompréhension, qui est un des domaines de la didactique du plurilinguisme. On y a beaucoup travaillé, puis finalement, on a beaucoup tourné en rond depuis 30 ans, quoi. Moi, j'ai trouvé l'idée absolument super quand elle m'est apparue au milieu des années 80. Je trouvais ça super. Bon, 35 ans après, on n'en a plus rien fait que, ben oui, c'est intéressant de se comprendre les uns les autres. Okay. Mais didactiquement, on a quand même peu avancé sur cette question. L'éveil aux langues, pareil. J'ai trouvé ça absolument super quand c'est apparu.
Tu te demandes que c'est pourquoi qu'on a eu aussi autant de peine? Est-ce que c'est parce qu'il y a une trop grande diversité de langues, en fait, diversité de configurations? Est-ce que là, le continent africain, ton expérience, elle a quelque chose à...
Je pense que, par exemple, on parle de l'intercompréhension ou de la didactique du plurilinguisme. Bon, alors, en fait, la didactique pour moi, non pas du plurilinguisme, parce que le plurilinguisme ne s'enseigne pas pour moi. Le plurilinguisme, pour moi, c'est un état auquel on arrive en ayant appris ou acquis ou ayant été confronté à plusieurs langues. C'est un état auquel on arrive. Et on peut y arriver dans l'enseignement en ayant appris plusieurs langues dans des systèmes d'enseignement, quoi. Mais le plurilinguisme, ce n'est pas quelque chose qui peut s'enseigner. Donc moi, je considère qu'une des difficultés, pour revenir à ta question, dans la didactique plurilingue des langues, que je pourrais appeler aussi didactique intégrée des langues ou méthodologie plurilingue intégrée, c'est les trois termes. Une des difficultés, c'est que les enseignants ont pris pour habitude au cours du XXe siècle d'écarter la langue une de l'horizon didactique. La langue une est devenue tabou avec la méthodologie directe des années 1895 et du début du XXe siècle. Ce tabou de la langue une s'est prolongé avec la méthode directe, donc jusqu'à les années 30, puis la méthode audio-orale, puis la méthode audiovisuelle, etc. Et donc, c'est un tabou qui a aujourd'hui 80 ans, quoi. Dans les premières approches communicatives, il n'y a pas du tout non plus de place pour la langue une et la réflexion sur les systèmes linguistiques. Aucune. Dans les versions un petit peu plus tardives de la méthodologie de l'approche communicative, on voit réapparaître une réflexion méta sur le rôle de la langue une. Le bouquin de Castellotti sur, par exemple, le rôle de la langue une en classe de langue a beaucoup fait dans cette optique-là pour réviser un petit peu les fondements. Mais essentiellement, depuis 70 ans, les enseignants ont l'habitude de bannir la langue une. Quand tu bannis la langue une de la classe de langue, tu ne peux pas faire une approche plurilingue. Parce que pour moi, une approche plurilingue, c'est aussi prendre en compte dans l'enseignement la langue une et la langue 2. Ensuite, la langue 2 et la langue 3, et de faire... Quand tu apprends une langue 3, il faut absolument prendre les deux premières en compte. Mais ce tabou, cette exclusion de l'espace de la classe de la langue 1, amène à faire qu'on ne peut pas penser une didactique du plurilinguisme. Parce qu'on la pense souvent de manière trop partielle, comme étant didactique du plurilinguisme avec toutes les autres langues qu'on apprend, mais sans la 1. Donc oui, didactique du plurilinguisme, oui, tu apprends l'anglais, qu'est-ce que tu sais du portugais, de l'italien, ça va t'aider, vas-y, mets toutes ces langues ensemble.
Bon, puis il y a un peu un débrouille-toi, hein, on ne sait pas comment amener ça en classe non plus.
Bien sûr.
C'est beaucoup de collègues qui ont travaillé,
bien sûr.
Elisabeth Payer aussi, hein, dans la didactique de l'allemand, c'était intéressant, elle a écrit un article là-dessus où finalement, ils sont un peu démunis en fait, les enseignants, avec ces méthodes, comment faire des liens entre plusieurs langues et valoriser même les langues, la diversité des langues dans la classe, qui peut parfois créer des situations de malaise. Mais voilà. Ouais,
mais il me semble qu'à moi, si tu veux, le non-dit, le non-pensé de la didactique du plurilinguisme, et pourquoi elle est dans un impasse, c'est qu'elle ne commence pas par penser la première langue comme étant la base du plurilinguisme. Et que donc, on enseigne la langue étrangère sans tenir compte de la langue une. Et ça, c'est le début des problèmes. Donc, si on partait de là, on pourrait dire qu'effectivement, on aurait une didactique du plurilinguisme plus facile à mettre en place.
C'est super
intéressant. Une didactique plurilingue des langues.
C'est super intéressant. Donc aussi, quand je reviens sur, parce que finalement, on a eu une conversation qui était très centrée sur l'Europe, mais finalement, toute ton expérience du continent africain, j'ai l'impression qu'elle ressort en fait dans tes analyses, parce que j'ai l'impression que sur le continent africain, en tout cas pour le peu que je connais, c'est inconcevable en fait de travailler sans d'autres langues en fait dans l'école.
Oui, alors c'est à la fois inconcevable au plan pratique parce que les autres langues sont dans l'école tout le temps, mais en même temps, c'est comme ça que ça se fait dans les classes. C'est-à-dire que, par exemple, dans le système colonial français, postcolonial français, les autres langues que le français n'ont jamais eu droit de citer dans l'espace de la classe. Bon. C'est au niveau des années, au milieu des années 70, qu'au Niger, par exemple, on commence à se dire qu'on va enseigner les langues nationales et puis le français ensuite. Au Mali, c'est au milieu des années 80 qu'on commence à faire ça. Et puis, on va avoir toute une série de montagnes russes. Hein. Les langues nationales, oui, il faudrait. Puis après, ça revient vers le français, etc. Et aujourd'hui, on en est encore là. Avec l'idée aujourd'hui que, il faudrait quand même prendre en compte les langues nationales, mais ils ne savent pas comment. Et puis, ça nécessite de grandes réformes éducatives. C'est compliqué. Hein. Alors. Ce contexte africain, moi, il m'a permis effectivement de penser qu'il y avait une absolue nécessité d'abord démocratique à ce que les langues africaines soient des langues d'enseignement, parce que c'est les langues de la famille, c'est les langues des apprenants, et qu'il fallait partir de ces langues africaines, qui sont de toute façon ce que j'appelle le déjà-là, dans ma méthodologie plurilingue intégrée, et qu'on ne peut pas nier, quoi. Et si on ne s'assied pas sur ce déjà-là linguistique, on construit sur du sable, complètement. Hein. L'exemple que j'aime à donner, c'est de dire, ben, vous allez faire comprendre, même pas faire comprendre, vous allez faire construire dans une langue étrangère, le français, un concept linguistique, le genre, qui est un concept linguistique qui n'existera pas dans les langues une. Vous le faites construire dans une langue qui est complètement étrangère, c'est hyper compliqué. Mieux vaut faire construire le concept de genre à partir de votre langue première, même s'il n'existe pas, il y a des choses qui y ressemblent. Il y a des marqueurs du sexe, par exemple. Et on peut comprendre en analysant sa langue une, quelque chose qui va ensuite fonctionner en français. Mais si on ne l'a pas pensé, sa langue une, et que la langue une est un non-pensé complet, ben on peut passer toute sa scolarité sans construire le concept de genre en français parce qu'on ne se rend même pas compte de ce que ça peut être. Donc moi, ces questions-là m'ont amené à me dire, bon, ben, il y a nécessité d'une didactique qui prenne en compte toujours la langue une, ce que j'appelle le déjà-là, qui fasse réfléchir les élèves sur leur déjà-là, c'est-à-dire l'équipement qu'ils ont dans leur tête et dont les langues qu'ils parlent les ont dotées, pour construire à partir de ce déjà-là ce que j'appelle un déjà construit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu parles une langue et que tu commences à réfléchir sur cette langue et son fonctionnement, tu construis une réflexion métalinguistique sur le fonctionnement de la langue. Et sur ce déjà construit, tu vas commencer à poser des catégories de fonctionnement de langue. Le genre, le nombre, les temps, la lexicologie, les éléments. Okay. Et c'est sur cette construction-là que tu vas pouvoir ensuite mieux apprendre une langue étrangère, le français. Si tu n'as pas fait ce boulot-là sur ta propre langue, tu es totalement démuni pour le faire sur une langue dans laquelle tu ne parles rien, quoi. Et donc ça, c'est ça qui m'a amené à me dire qu'il fallait absolument construire une didactique plurilingue, ce que j'appelle aujourd'hui une méthodologie plurilingue intégrée, quoi. Et qui n'est pas une didactique du plurilinguisme en tant que tel, mais qui va mener à un meilleur plurilinguisme, plus effectif. Alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que des élèves qui n'ont rien construit dans leur première langue apprennent tout en français et sont des semi-locuteurs du français ad vitam. Et sont des gens qui souvent vont abandonner l'école au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, avec les coûts humains, sociaux, psychologiques de cette histoire-là. Et ça, pour moi, c'est assez dramatique, quoi. Voilà.
Est-ce que c'est un modèle que tu vois, où tu vois vraiment un potentiel? Parce que c'est, si j'ai bien compris, c'est un modèle, en tout cas avec le programme Élan. En fait, je connais juste l'acronyme
Oui,
de
l'école et
Élan.
langue africaine.
Merci. Est-ce que tu vois, bah, par exemple, j'ai l'impression que c'est un peu de ça que tu t'inspires. En tout cas, c'est une dématérialisation de ce que tu nous racontes, c'est ça. Est-ce que ça, ce serait transposable au contexte européen?
Complètement, bien sûr, mais complètement, bien
Et
sûr.
est-ce que ce serait dans les...
Moi, j'aurais pour rêve, si tu veux, une fois que je suis en Suisse, depuis que je suis en Suisse, d'essayer de construire une didactique du français pour des italophones, une didactique de l'italien pour des francophones, une didactique de l'allemand pour des francophones, en partant du déjà là, en faisant du déjà construit et en intégrant les langues, tu vois, mais réellement. Donc ça, c'est peut-être mes futurs chantiers suisses en didactique, hein.
Et pour arriver à ma conclusion, on a un peu l'optique de, on parle du français langue étrangère, mais finalement, est-ce que cette didactique intégrée des langues, c'est pas quelque chose qui devrait tout simplement être pris en considération dans toutes les didactiques des langues? C'est-à-dire que une didactique du français pour les italophones, pour les arabophones, pour etc. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être pensé en classe de français langue 1, en langue 2, etc. Comment le penser? C'est quand même extrêmement compliqué, parce que si je prends le cas très local de la Suisse, du canton de Vaud, disons qu'il y a un canton francophone, clairement francophone, où la langue d'apprentissage, la première langue d'apprentissage sera le français, est-ce que c'est là-dedans aussi que tu te verrais intégrer finalement, comment on pourrait intégrer cette inspiration d'un programme comme Élan ou de la didactique intégrée des langues, ou est-ce que c'est uniquement chasse gardée pour les langues étrangères, j'ai envie de dire, cette
Non, en fait,
didactique?
il faut que dans le cours de français, langue 1, on prépare l'apprentissage des autres langues, effectivement. Avec un regard déjà qui va. Alors là, par exemple, l'éveil aux langues, ça peut être super dans un cours de français. Et à l'intérieur du cours de français, tu fais de l'éveil aux langues, mais tu ne le fais pas dans les cours de langues étrangères.
Voilà.
Ça, c'est l'erreur pour moi. Tu le fais dans le cours de français pour montrer effectivement que le mode de fonctionnement de ta langue, il est relatif, qu'il y a des systèmes qui ne marchent pas comme ça, du point de vue communicatif, linguistique, etc. Tu prépares ça. En faisant ça, tu développes la conscience métalinguistique de ta propre langue, bien sûr, et ça va te préparer à aller voir cette diversité de fonctionnement quand tu vas aller vers la langue 2. Donc effectivement, c'est un travail qui commence dans l'enseignement de la langue première. Et puis après, il va se poursuivre dans une progression de l'enseignement de la langue 2 qui devrait être adaptée à ce trajet qu'on fait faire de. Ce n'est pas le même trajet pour apprendre l'allemand pour un francophone que pour apprendre l'italien, quoi. Il devrait y avoir une prise en compte de ce trajet. Et je ne comprends même pas que ça ne se passe pas. Et de fait, ça ne se passe pas. Quand tu analyses les manuels de langue étrangère, tu t'aperçois qu'ils ne prennent pas du tout en compte le trajet d'apprentissage. Et on prend toujours en compte la langue 2. Et pas depuis où on l'apprend, et avec quelle stratégie d'apprentissage, et avec quel bagage linguistique on va aborder cette langue. Donc effectivement, tout le travail doit se faire d'abord en langue 1. Et ensuite, les ponts vont se faire avec le prof de langue 2 et le prof de langue 3. Et après, tous les trois doivent communiquer, bien sûr. Voilà.
Et peut-être même avec d'autres professeurs, hein, puisque c'est le propre de tous ces. Quand on pense au
Oui.
programme d'immersion,
Oui,
etc.,
bien sûr. Ouais.
alors là, ça
Ouais,
devient.
bon, soyons raisonnables, parce que si on ne veut pas effrayer trop les gens, il faut rester sur des choses maîtrisables. Où les gens se disent, bon, avec une personne, je peux discuter, avec deux, je peux échanger, avec trois, il vaut mieux jouer à la belote, quoi.
Voilà, vaut mieux bien s'entendre en tout cas.
Oui, je comprends.
Merci beaucoup Bruno Maurer pour cet entretien, ça a été un plaisir.
Merci à toi.
À une prochaine.
Merci Philippe, au revoir.